BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire, ça va faire mal là pour Apple qui vient de se voir infliger une amende, tenez-vous bien, d'1,8 milliard d'euros de la part de la commission de Bruxelles. On va voir ça bien sûr dans un instant avec Alexandra Paget. Sinon, on a bien d'autres choses à vous raconter ce soir. Nouveau rebondissement chez Casino puisque le comité central d'entreprise fait appel de la décision de justice qui a donné quasiment les clés du camion à Daniel Kretinsky. On va voir ça avec Pauline Tadevin. On a l'Allemagne qui va s'offrir une belle semaine de grève dans le transport. Est-ce que la France serait pas en train de déteindre sur nos voisins? On posera la question. Et puis, il y a l'énorme raout annuel du Parti communiste chinois qui vient de débuter à Pékin alors que la croissance, vous le savez, bat l'aile depuis un certain temps. De tout cela, on va parler avec nos experts qui arrivent à 18h30. À 18h15 auparavant, c'est le patron de la BPI, Nicolas Dufour, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, très clairement, jamais Bruxelles n'avait tapé aussi fort sur Apple. La commission vient de lui infliger une amende d'1,8 milliard d'euros. Amende pour non-respect de la concurrence, évidemment, sur le marché de la musique en ligne. Alexandra Paget nous raconte ça.
Bruxelles a fini par donner raison à Spotify. En 2020, la plateforme suédoise de streaming musical saisit l'exécutif européen d'une procédure antitrust à l'encontre du géant californien, au motif qu'Apple, pour favoriser sa propre plateforme de streaming audio, Apple Music, impose des restrictions aux éditeurs d'applications et leur interdit notamment de proposer et même de communiquer autour d'autres modes d'abonnement plus abordables que les offres souscrites via l'écosystème Apple. Ce qui constitue un abus de position dominante auquel Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, compte bien mettre fin.
Nous avons ordonné à Apple de revoir ses dispositions anticoncurrentielles et de s'abstenir de telles pratiques dans le futur. À partir de maintenant, Apple devra permettre aux développeurs d'applications de streaming musical de communiquer librement avec leurs propres utilisateurs.
Un message puissant envoyé par la commission, c'est la première fois qu'elle sanctionne Apple pour infraction aux règles de la concurrence. La firme a immédiatement fait appel de cette décision.
Voilà pour cette décision de justice sur laquelle on reviendra bien sûr dans Tech & Co. À partir de 20h, bien sûr, avec François Sorel et ses équipes. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y a le dossier Casino, avec un nouveau rebondissement, donc tout à l'heure. Bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
On rappelle donc ce qui s'est passé lundi dernier. Le tribunal de commerce de Paris avait validé le plan de sauvegarde qui marquait donc la prise de contrôle du groupe par Daniel Kretinsky, entre autres. Sauf qu'aujourd'hui, le comité social d'entreprise centrale du groupe a décidé de faire appel de ce jugement. Quelle est la motivation des syndicats, Pauline, exactement?
Vous l'avez dit, le CSE et l'intersyndicale, hein, ils avaient donné rendez-vous à la presse cet après-midi dans les bureaux de leur conseil, hein, de leurs avocats. Donc tout le monde était réuni pour nous expliquer qu'ils interjetaient appel de cette décision du tribunal de commerce de Paris. En fait, ils interjettent appel du jugement pour rétablir, disent-ils, la légalité de la situation. Ils estiment que le plan de sauvegarde accéléré tel qu'il a été présenté n'est pas conforme à la loi, n'est pas légale. Ils reprochent à ce plan de sauvegarde accéléré de ne pas comporter de volet social, hein, comme ils ont eu l'occasion de le dire plusieurs fois, y compris sur cette antenne, ces dernières semaines et ces derniers mois. Là, ils passent la vitesse supérieure avec cette conférence de presse organisée. Ils avaient 10 jours pour interjeter appel à partir de la décision du tribunal de commerce qui a eu lieu, donc vous l'avez dit, le 26. Oui. Les 10 jours, ça se termine jeudi. Ils souhaitent aussi que le ministère public, le parquet, oui, qui avait lui aussi émis un avis défavorable sur ce plan de sauvegarde accéléré, il souhaite que le parquet, dans la foulée de cette annonce d'aujourd'hui, interjette appel d'ici jeudi, puisque ce sera la date, oui, butoir, parce que si l'appel de l'intersyndicale et du CSE n'est pas suspensif, il ne suspend pas le déroulé, oui, de ce plan de sauvegarde par la future direction du groupe Casino, eh bien, ce qu'on nous explique, c'est que si le ministère public interjette appel, là, ce sera suspensif, jeudi. En fait, ils mettent un coup de pression, un vrai coup de pression aujourd'hui, en disant on n'a pas eu ce qu'on veut, on n'a pas eu les chiffres, il n'a pas été question du nombre de licenciements prévus, il n'y a pas eu de volet social dans ce plan. Donc aujourd'hui, on demande clairement que ces réponses nous soient apportées.
Voilà, donc coup de pression sur le parquet, finalement, on peut le dire ça comme ça.
Alors, coup de pression d'abord sur la direction, en estimant que tout ce qui s'est passé n'était pas légal. Hein. Il reproche à la direction d'avoir caché la réalité économique et financière du groupe. Il reproche au plan de ne donner aucun indicateur sur le nombre de licenciements, je vous l'ai dit. Il porte des accusations de délit d'entrave. Hein. Ce plan ne sauvegarde pas la loi. Il ne sauvegarde ni l'activité, ni l'emploi, on dit les syndicats aujourd'hui.
Voilà pour ce nouveau rebondissement. On en reparlera plus longuement avec vous, Pauline, tout à l'heure à 18h30. Puis on sera en ligne avec l'une des avocates du conseil du comité social d'entreprise de Casino. Dans l'actualité des entreprises, il y a l'enseigne bien connue Jiffy qui est en grande difficulté financière, qui cherche à rééchelonner sa dette. D'après l'agence France Presse, elle espère sérieusement trouver un accord dans les prochaines semaines. Elle continuerait en tout cas en l'état à payer ses salariés et ses fournisseurs. 18h05 dans l'actualité ce soir, le Parlement qui est donc réuni en session extraordinaire à Versailles pour voter l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Le vote n'a pas encore eu lieu. Il faut savoir qu'il y a plus de 230 000 femmes qui avortent chaque année en France. Et pourtant, on se rend compte que ça reste un sujet tabou, dans le monde de l'entreprise notamment. Astrée Olivier.
C'est même la double peine pour les femmes salariées qui recourent à l'IVG. En plus de l'intervention médicale, elles perdent de l'argent. Car si de courts arrêts maladie sont souvent prescrits dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, ces jours ne sont pas forcément pris par les femmes salariées. Et pour cause, un délai de carence d'en moyenne 3 jours. 3 jours pendant lesquels la sécurité sociale ne verse donc pas d'indemnité. Dès lors, le recours au congé payé ou au RTT est plus fréquent. La législation a bien évolué pour les fausses couches. Depuis janvier, des arrêts maladie spécifiques sans délai de carence sont délivrés. L'élargir aux IVG pourrait donc être une piste, selon l'avocate pénaliste Louise Boulet.
Instaurer un congé IVG, ça serait aussi envoyer un message politique fort. C'est toujours un sujet subversif et ce, d'autant plus dans le milieu de l'entreprise. Et pour que ça cesse, ça doit passer par le droit. Un congé dédié, ça légitimerait les femmes dans l'exercice de ce droit fondamental au sein de l'entreprise.
Certaines entreprises françaises ont d'ailleurs sauté le pas, c'est le cas du spécialiste de l'informatique LDLC. Mais signe que prendre un tel congé est perçu comme stigmatisant, aucune femme de l'entreprise ne l'a encore sollicité.
Astrée Olivier, et puis pour finir, on voulait dire un petit mot d'immobilier, parce qu'apparemment ce qui remonte du terrain est plutôt encourageant. Les banques se détendent, elles sont de moins en moins tendance depuis le début de l'année à refuser d'accorder des prêts. Marie-Cœur de Roy.
Les refus de prêts, c'est de l'histoire ancienne ou presque, en témoignent les chiffres du courtier Vous Financez ici. L'an dernier, on était sur plus d'un tiers de demandes de crédit refusées, 34% précisément. Depuis le début de l'année, on est passé à moitié moins, environ 18% de dossiers refusés. Plus spectaculaire encore chez le courtier Caspi. Là, on est carrément retombé depuis le début de l'année à seulement 6% de demandes de crédit qui ne sont pas acceptées par les banques. Et ce n'est pas anodin qu'en ce moment, les établissements bancaire communique sur une volonté de réexaminer les refus de prêts de ces dernières semaines, car elles y ont tout intérêt, d'où leur nouvelle politique bancaire, une baisse de taux constatée depuis le mois de janvier et de plus faibles exigences en termes d'apport personnel. Très concrètement, quand on fait encore malheureusement partie de ces refus de crédit, le plus intéressant n'est pas d'aller chercher à négocier avec sa propre banque, mais bien de faire jouer la concurrence. Selon le courtier Vous Financez, les écarts de taux n'ont jamais été aussi élevé. En ce moment, par exemple, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans, quand une autre banque propose pour ces mêmes profils sur les mêmes durées 3,6%. C'est dire l'intérêt d'aller faire jouer la concurrence.
Marie-Cœur de Roy, les banques qui se détendent sur le crédit IMO. 18h08, on va sur les marchés tout de suite. Retrouver Clémence Tanguy depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Clémence, petite hausse plus 0,28% pour débuter la semaine.
Oui, timide hausse dans de faibles volumes, mais hausse quand même, plus 0,28 à 7956 points. La plus forte hausse, c'est Thales, secteur de la défense, plus 2,18%. Le dossier reste quand même à suivre, parce que Thales va publier très prochainement ses résultats. La lanterne rouge, c'est Kering, avec moins 1,93%. LVMH aussi est en baisse, moins 0,78%. Le secteur du luxe souffre un peu, les prises de bénéfices ont lieu dans un CAC 40 sur des sommets. On retiendra surtout l'absence des grandes variations sur les différentes places place boursière. Les marchés ont été atones aujourd'hui, hein, sans grande direction en Europe comme aux US. Il faut dire qu'ils digèrent la saison des publications qui s'achève. Ils reprennent leur souffle avant de nombreux indicateurs macro qui seront publiés dans les jours à venir. Hein, objectif de PIB chinois demain. Ensuite, on aura les auditions devant le Congrès de Jérôme Powell et d'autres membres de la Fed. Jeudi, ce sera la réunion de la BCE. Vendredi, l'emploi américain. Beaucoup de publications qui vont donner du grain à moudre au marché, devraient les sortir de leur léthargie. Et puis, pourquoi pas, hein, servir de catalyseur à la hausse, puisque les 8000 points restent en ligne de mire pour le CAC. L'objectif est toujours dans toutes les têtes.
Merci beaucoup, Clémence. On regarde à Wall Street ce qui se passe à la mi-séance. Pendant ce temps, le Dow Jones, en ce moment, qui est en légère baisse, moins 0,19%, 39 011 points. Et puis le Nasdaq de son côté qui perd également 0,2%, 16 240. 18h09, Nicolas Dufourc, le directeur général de la BPI, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Eddy Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, mon invité, c'est Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France. Bonsoir Nicolas Dufourc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié jeudi soir vos résultats, une partie du reste de vos résultats pour BPI France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu le poids que vous avez pris dans l'économie française. Du reste, je vous poserai une question là-dessus en disant c'est quoi l'avenir de BPI France ? Le financement, l'innovation. En même temps, parfois, on se demande pourquoi vous investissez pas massivement, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Mais d'abord, des résultats historiques pour BPI France. En quoi sont-ils historiques? Au-delà des chiffres, en quoi sont-ils historiques pour vous?
Alors, 2023, ils sont historiques parce qu'on a, quand on ajoute tout, poussé 63 milliards de financement et de garanties dans l'économie française. Donc, c'est le chiffre le plus élevé, évidemment, des 10 années passées. Ils sont surtout historiques parce que c'est la grande année du financement de l'innovation par BPI France. Mmh. Nous sommes opérateurs de France 2030. France 2030, quand même un miracle français, c'est 54 milliards d'euros isolés pour permettre à l'économie française de se réinventer complètement par la technologie et par l'innovation. Hein. Et là-dedans, nous, on est opérateur d'un gros 60%. Du coup, en 2023...
C'est 50 milliards investis.
On a financé 10 milliards d'euros, ouais, d'innovation.
Ouais.
En 2013, la première année, 700 millions. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est historique. C'est que je pense que avant très longtemps, on ne refera pas une année à 10 milliards d'euros de financement de l'innovation.
D'accord, ok. Pourtant, j'avais dit, on est au tout début de cette aventure. On reviendra sur l'innovation parce que vous insistez beaucoup.
La façon dont je parle, c'est essentiellement de la subvention, des avances remboursables, un peu de prêt à l'innovation. Donc c'est vraiment une mission d'intérêt général.
Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que l'innovation, il n'y a pas de réindustrialisation. Je reprends vos mots, s'il n'y a pas d'innovation.
Oui, oui.
On est au début de l'intelligence artificielle. On voit que les PME s'y mettent lentement, oui, mais sûrement, enfin, du, oui, moins espérons, mais qu'il faut investir encore massivement. Donc j'imagine que vous allez encore continuer en 2024-2025 à appuyer sur les financements vis-à-vis de l'innovation.
Intelligence artificielle, on va mettre 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, dans le plan stratégique que notre conseil d'administration a validé en septembre, ouais, dans les 4 ans qui viennent. Donc c'est, ouais, beaucoup d'argent.
Oui. 13 500 entreprises françaises sont passées dans vos fourches codines. C'est un record, là aussi?
En fait, beaucoup plus. Hein. 13 500, c'est celles qui font l'objet de financement innovation et de crédit direct à l'investissement. Mais quand on prend la totalité des entreprises françaises qui ont été touchées par nous en 2023, on n'est pas loin de 100 000.
Vous êtes devenu le premier investisseur d'Europe en private equity.
Oui.
Non, vous avez vu ça, enfin, c'est un classement qui est sorti.
Et le deuxième
un
du
peu
monde.
Étonnant parce que BPI, c'est quand même un, oui, un objet un peu hybride, non identifié, on peut dire ça, enfin, très français.
Oui.
Mais devenu le premier investisseur de private equity. Comment, ouais, vous expliquez ça?
Alors, c'est en nombre de deals, hein, c'est, ouais, pas en euros.
Non.
Évidemment, puisque nous, on ne prend pas de participation majoritaire. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a construit une machine qui permet de dérouler un nombre d'opérations tout à fait conséquent, hein, puisque en 2023, quand on prend les acquisitions et les cessions, on a fait plus de 400 opérations. Il n'y a aucune entreprise de private equity qui fait ça en France ni en Europe, ça c'est sûr. Hein. Dans le monde, on est numéro 2 et parfois même certains trimestres numéro 1, figurez-vous, devant des grands acteurs américains. Donc ça, c'est quand même un sujet de fierté. Et on est capable de faire ça et tout en respectant une logique de performance opérationnelle quand même.
Alors justement, ce qu'on peut dire quand même, le dividende, votre dividende, il va a priori diminuer, il était de 1,5 milliard en 2022, il, oui, ne serait que de un peu plus d'un milliard, 1,100 milliard.
Le résultat.
Le résultat, pardon, le résultat, oui.
Parce alors, que j'ai une question sur les dividendes,
le résultat net
passe de 1,5 milliard 1,450 milliard à peu près à 1,150 milliard cette année, oui, donc on perd 300 millions. qui sont liées en particulier à des corrections de valeur sur un certain nombre de, sur les, certaines de nos participations qui sont, enfin c'est de la technique, mais qui sont mises en équivalence dans, le, dans les comptes de BPI France.
Oui, mais il y a quand même une baisse de, va dire, tous les portefeuilles ont été touchés par des baisses de valorisation.
Oui.
J'imagine que le vôtre aussi, non?
Tout à fait. On a fait des corrections de valorisation dans la tech, notamment dans les licornes.
Hein, ah, oui.
On est actionnaire de pas mal de licornes. Et je peux tout à fait donner le chiffre. Hein, sur un portefeuille de capital risque direct BPI France, hein, de 8 milliards d'euros, en deux ans, 2022-2023, on a passé 800 millions d'euros de correction. 10%.
Oui, c'est quand même
assez énorme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire
vous ne le voyez pas dans le résultat,
ouais.
Ça se passe directement dans les fonds propres.
D'accord, mais ça veut quand même dire que vous achetez trop cher?
Bah, ça veut dire qu'on a investi dans Doctolib, dans Canton Square, dans Mano Mano, comme tous nos partenaires, hein, Euraseo, les Américains, tout le monde, dans ces années 2021-22, qui étaient des années, en effet, chères. Attention, quand on vendra avec des multiples de 2, voire 3, voire 4. Hein, donc le profit sera là.
Oui, mais c'est quel, ça veut dire que vous avez fait une dépréciation de combien à peu près? C'est quoi? C'est moins 10, moins 20, moins 30 dans la tech?
Là, ce que je viens de dire, c'est que par rapport à notre actif sous gestion capital risque,
ouais.
C'est 10% au total.
D'accord, ok. Donc c'est quand même un point. Sur vos grandes participations, la baisse de valorisation, elle est de combien?
Sur les grandes participations, il n'y a pas de baisse de valorisation autre que l'évolution du CAC, hein, puisqu'elles sont toutes cotées. Il y en a une qui est cotée et qui est mise en équivalence sur laquelle on a fait un ajustement comptable, qui est Eutelsat.
Ouais.
Toutes les autres, aucun ajustement.
Ouais,
elles se portent bien. Hein. Vous savez, on a créé en 2023 4,3 milliards d'euros de valeur. C'est peut-être le chiffre qu'il faut retenir. C'est considérable.
Donc essentiellement sur des grandes entreprises.
Alors surtout.
Oui.
Surtout, vous prenez les petites PME, par exemple, les PME familiales qu'on a revendues cette année. Hein, on a fait 80 ventes. En moyenne, on les a vendues à 3,2 fois ce qu'on avait payé.
Mmh.
Une petite PME familiale des territoires dans laquelle on avait mis 5 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment une performance. C'est difficile de faire ça.
Vous siégez, vous êtes actionnaire de Stellantis, vous siégez,
oui,
au conseil d'administration,
oui,
au board de Stellantis. On peut se demander qu'est-ce que fait BPI France là, pardon. Pourquoi vous siégez là et pourquoi BPI France est au capital de Stellantis?
Alors, on a racheté la participation de l'État dans Peugeot. Vous vous souvenez que
l'État, oui, bien sûr,
avait Peugeot. L'État avait à la fois Renault et Peugeot. BPI France avait pas mal de cash. Et donc, nous avons repris la participation de Peugeot pour bien ancrer cette société. Peugeot à l'époque, hein, PSA,
oui,
et ensuite l'accompagner dans sa transition et sa grande fusion mondiale, et l'ancrer en France. Hein. Et voilà, donc tout simplement défendre les intérêts de l'Hexagone.
Oui, mais la question c'est pourquoi c'est pas au sein de l'agence de participation de l'État, pourquoi c'est BPI France?
C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait poser comme question.
C'est que,
en fait, l'agence des participations de l'État, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe des infrastructures. Elle s'occupe de l'énergie,
ouais,
et de la défense.
Ouais.
Et des grandes infrastructures,
aéroport
de Paris, etc. Bon, le télécom, on les partage. Mais tout le reste, normalement, est chez BPI France. La raison pour laquelle nous n'avons pas Renault, c'est que nous avons Peugeot. On ne peut pas avoir les deux.
Mmh. Hein.
Mais normalement, ce qui reste à la PE, c'est ce qui, normalement, ne doit plus bouger.
Alors,
ce qui a un petit côté éternel. Nous, tout ce qui est chez BPI France sera vendu. Le portefeuille tourne.
C'est un artiste, vous allez faire tourner?
Oui, bien sûr.
Oui.
Vous
avez combien
On a 7% du
7%,
capital.
C'est ça.
Et on a une plus-value sur Stellantis qui est de 2 milliards d'euros quand même.
Oui, donc c'est tentant, non?
Donc
c'est tentant,
oui, quoi. Mais le moment n'est pas venu.
Le moment n'est pas venu?
Non.
En 2024 non plus?
Non plus.
Ouais. Les rumeurs de rapprochement avec Renault,
Il faut interroger le management. En tout cas, on n'a pas parlé en board.
D'accord, donc ça c'est un point important. Ça montre que quand même, c'est pas remonté si haut que ça. Donc c'est peut-être plus dans la gouvernance qu'il faut aller creuser. Une question, parce qu'on en parle tous les jours ici. Est-ce que c'est pas le moment de nationaliser Atos? Ou que vous preniez le contrôle ou une grande participation chez Atos momentanée, mais le temps de résoudre ce dossier où il y a quand même d'abord des pépites françaises, évidente, la cybersécurité, tout ça, c'est des dossiers qui pourraient vous intéresser. Mmh. Et puis, on se demande est-ce que c'est bien pour l'image de la France de laisser se déliter une telle entreprise?
Je pense que pour l'image de la France, si à chaque fois qu'une entreprise commence à avoir des difficultés, on la nationalise,
mais là, c'est la
cybersécurité, on sera en difficulté.
C'est non, la technologie, c'est l'innovation.
Atos, j'ai même plus le chiffre d'affaires global en tête, mais mettons que ça soit...
Bien sûr, il y a l'infogérance.
Une dizaine de milliards. Donc,
ouais.
Sur la dizaine de milliards, il y a 400 millions de cybersécurité,
mm-hmm,
qui sont du service. Voilà. Et puis, il y a, celle-ci, de mémoire, 600 ou 700 millions de supercalculateurs. hein, qui sont utiles notamment pour la défense, pour le nucléaire, qui sont vendus à l'étranger.
Donc clé, c'est de la souveraineté de la France.
C'est de ça qu'il s'agit. Oui.
Et là, vous ne pourriez pas intervenir, parce que dès lors qu'on voit bien qu'il y aura sans doute un découpage.
Oui, de toute façon, BPI France est toujours minoritaire.
Hein. Oui.
Donc, il faut bien que quelqu'un ait envie d'acheter cette participation-là pour la développer industriellement.
Oui. Mais si il y a un acheteur...
Si ce quelqu'un existe, on regardera avec lui. Mais, ah oui, mais le problème, c'est que ce quelqu'un, pour l'instant, nous l'attendons depuis longtemps.
Il y a deux candidats. Daniel Chretinsky, même s'il a dit qu'il se retirait.
Non, pas là-dessus. Pas sur les supercalculateurs et la cybersécurité.
Sur l'infogérance.
Sur cette partie-là,
il faut
bien un industriel intéressé.
Donc si Airbus y va, vous y allez.
Si Airbus y va et qu'Airbus pense qu'il a besoin de nous, il va venir nous voir et on regardera.
Oui. Mais vous êtes OK. La dernière fois, vous m'aviez dit non, Atos, c'est pas pour nous. Là, vous dites, éventuellement sur ces parties-là.
Ce que je vous avais dit, c'est que je ne souhaitais absolument pas qu'on rentre dans évident. Puisque la structure des vidants dans laquelle on mélangeait des choux et des carottes me paraissait inappropriée pour les métiers de l'informatique.
D'accord, ok. Est-ce que le... juste une question comme ça. BPI, France, on a vu tous les chiffres, vous venez de nous expliquer, Nicolas Dufourc. Faites ces 10 ans, c'était créé en 2013. La question qu'on peut se poser, c'est, et après, 10 ans après, vous serez où, quoi? Vous allez devenir une grande banque classique, parce que vous êtes un animal hybride, encore une fois. Qu'est-ce que vous allez devenir? Quel est le...
Bon, d'abord, on est...
Est-ce que vous allez rester comme vous êtes, ou alors vous pensez qu'il faut transformer, trouver une autre dimension à BPI France?
Non. Encore une fois, notre mandat, il est vraiment simple. Hein. C'est d'accompagner les entrepreneurs français. Mmh. De 7 à 77 ans, j'ai envie de dire. Et seulement ça, et ça sera jamais que ça. C'est-à-dire qu'on ne va jamais nous demander de faire de l'immobilier, on ne va jamais nous demander d'être un grand fonds d'infrastructure, par exemple. On ne nous a pas demandé d'aller sur les minéraux. Nous, on est éditeurs d'entrepreneurs, impresario d'entrepreneurs, coach d'entrepreneurs. Notre sujet, c'est l'élan vital des entrepreneurs français. Donc, on va les suivre. Voilà, et à partir de là, bon, aujourd'hui on fait 20 milliards d'euros de crédit par an, ben on fera 25, mais on fera pas 80. Mmh. Et on fait 4 milliards à parfois 5 d'investissement en equity par an, en fonds propres. Bon, on montera peut-être à 6, mais on montera pas à 30. Hein. Voilà, donc on a notre dimension, parfois elle peut être considérée comme un peu limitée par rapport aux enjeux.
Oui. C'est sûr. Et bien justement, on va y venir. Merci.
C'est sûr que dans la transition. Alors, il nous arrive de mettre des tickets d'un milliard d'euros. Hein. Mm-hmm. On a mis un milliard d'euros dans Essilor Luxottica, par exemple. Ouais. Mais pour ça, on est allé chercher 70% d'argent privé. Parce que nous n'avons pas assez d'equity.
Mais parce que là, pour l'Aquin, vous avez du mal à trouver des grands financements.
Pour
votre fonds, l'Aquin, vous avez...
Du mal, on a quand même levé 5 milliards. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont levé 5 milliards
d'euros. Et investi dans quoi?
Alors, on a investi dans Essilor, dans Arkema, dans SPI, dans Elis, dans Alstom. On a investi dans Seb. On a investi ensuite dans une boîte de cybersécurité qui s'appelle Exclusive Networks. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Et en vue d'autres entreprises?
Oui. Mais côté dont je ne peux pas en parler.
Dans quel secteur?
Dans tous les secteurs.
Et le pourquoi, c'est quoi? Parce qu'entre Arkema, c'est pas du tout la même problématique que Essilor.
Le pourquoi, c'est actionnaire de référence de long terme, avec présence au conseil d'administration.
D'accord.
Voilà. Il n'y a pas de fonds de pension en France, donc on fait le job.
D'accord, ok. Alors, ma question, c'était sur l'innovation, parce qu'évidemment, vous dites que l'innovation, c'est quelque chose de très important. Vous avez investi, vous avez rappelé les chiffres, dans 2030, c'est 50 milliards. Investi au total, vous avez mis à peu près 60%, vous nous avez expliqué à travers France 2030. Vous parlez de deep tech, vous parlez d'intelligence artificielle. Vous avez vu cette phrase qu'a dit le cofondateur de Nvidia, que vous connaissez, oui. Dans le futur, tout ce qui bouge sera autonome. Ça veut dire vraiment, on voit bien que l'innovation, les robots prennent une place de plus en plus importante. Est-ce que quand vous faites pas, il n'y a pas un risque malgré tout un peu de saupoudrage quand vous êtes investisseur dans Mistral, qui est notre pépite, mais on voit bien que tous les grands fonds qui ont investi, bah c'est des fonds américains, c'est des fonds anglo-saxons, c'est des anciens de Google. Mmh. On a envie de dire, mais pourquoi BPI France, vous ne mettez pas le paquet dessus?
Oui. Alors, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. Il y a quantité de start-up françaises aux côtés desquelles nous nous sommes portés. en fonds propres, en crédit, en subventions, etc. Mmh. Donc ça, c'est notre rôle qui est d'alimenter tout un écosystème dont on peut être réellement extraordinairement fier. Hein. Ouais, l'autre jour, on a fait une réunion où il y avait, devant des grands investisseurs internationaux, une brochette d'entrepreneurs de l'intelligence artificielle français. Franchement, j'étais fier. Franchement, c'était top niveau. On a un des plus beaux écosystèmes mondiaux. Voilà. Bon. Donc, c'est ça qui fait qu'on va investir 5 milliards dans l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Et on va le faire dans, effectivement, beaucoup de boîtes, avec des tickets qui seront des tickets plutôt moyens. Hein.
Mais pourquoi, pourquoi vous ne mettez pas un gros ticket quand il y a des enjeux comme Mistral ?
Non, mais donc, ensuite, il y a la question de savoir, quand on vient vous voir et qu'on vous dit, est-ce que vous êtes prêt dès demain matin à mettre 200 millions sur la base d'une toute petite documentation ?
Oui.
Sur une promesse qui est... Bon, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Voilà. Donc, on a investi dans Mistral. On soutient Mistral. On travaille avec Mistral. On fait travailler Mistral pour le système d'information de BPI France. Hein. Mmh. On les accompagne. On les suit. On parle avec eux tout le temps. Il y en a d'autres. Hein. Il y a une très belle entreprise française qui est en train de lever des capitaux importants qui s'appelle Holistic.
Bien sûr.
Que nous regardons. Hein. Il y en a une autre. Enfin, bref, il y en a beaucoup. Il y a Akemia, au capital de laquelle nous sommes. Intelligence artificielle remarquable. Et
vous voyez toutes ces grandes fortunes d'Internet américain. Elles investissent dans ces entreprises de demain.
Ben, moi, mon rêve, c'est que les grandes fortunes françaises investissent effectivement dans la deep tech.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est parce que
le problème, c'est que nous, on n'en a qu'un. C'est Xavier Niel, de la fortune issue d'Internet. Donc, très branché là.
Il a mis 200 millions dans l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est formidable ça.
Et vous appelez les autres qui sont dans les secteurs plus traditionnels, mais investir là-dedans.
Oui, il y en a. Hein, les très grandes fortunes du luxe, les très grandes fortunes de l'immobilier. Ils font des choses. Hein. Attention, ils ont chacun un petit fonds d'investissement, etc. Mais effectivement, ce qui caractérise le côté rugissant de la prise de risque américaine, c'est que les grandes familles du digital américain qui ont fait fortune dans les années 2000 quand nous n'étions pas là, et 2010, investissent tout dans l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Oui. Nicolas Dufour, évidemment, il faudrait qu'on parle de réindustrialisation parce que on sait que c'est un de vos dadas, mais il ne reste plus qu'une minute, deux minutes. Je reçois Bruno Bonnel de France 2030.
Il faut y croire.
Il faut y croire, voilà.
Voilà.
Objectif 12-13% dans le PIB d'industrie.
Moi, j'ai toujours dit 12.
Oui, 12.
C'est déjà un objectif.
Dans 5 ans Objectif dans 5 ans
Non. Moi, j'ai dit qu'il fallait beaucoup d'années pour faire ça, qu'il fallait une dizaine d'années. Hein.
Un mot sur la French Touch, parce que en fin de cette semaine, vous partez à Austin aux États-Unis.
Oui.
Il y avait la French Tech, maintenant il y a la French Touch. Oui. Je fais exprès d'insister. Oui. C'est les industries culturelles qui pèsent très lourd. Expliquez-nous, le CES de Las Vegas qui est à Austin.
Donc, BPI France finance les industries culturelles créatives. Voilà. On est encore une fois éditeurs d'entrepreneurs, donc tous, donc en particulier ceux-là, vidéo, télévision, cinéma, design, création, tous les arts visuels, la musique, etc. On fait 1,5 milliard d'euros par an dans ces industries-là. Ouais. Et on a construit, comme la French Tech, une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle la French Touch. Et je les emmène à Austin, Texas, le week-end prochain.
Oui, ça va peser lourd. Et là, la France, on est
aussi. Il y aura un concert de Justice.
Voilà.
Et pas pour le la fierté française à Austin, Texas.
Et en fait, on sait que vous êtes un fan de ce genre de musique, Nicolas Dufour. À mon avis, c'est pour ça que vous y allez. Merci, en tous les cas, d'être venu ici. Il n'y a pas de musique, mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Merci, Nicolas Dufour, le patron de BPI France.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, ils sont là, les experts. Première partie jusqu'à 19h. Pauline Tadevin est avec nous. Pauline, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Emmanuel Lechypre est avec nous.
Bonsoir
Emmanuel, Edwige Chevrillon. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir.
Et puis Frédéric Simotel qui va nous rejoindre dans un instant pour parler intelligence artificielle. Ce dont Nicolas Dufour nous en parlait au passage il y a quelques instants, Edwige.
Oui, tout à fait. Intéressant parce que je lui posais la question, comme il a des chiffres quand même très impressionnants, notamment ce qu'il avait signé dans l'innovation. Je disais, mais pourquoi vous ne mettez pas, par exemple, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, un gros ticket sur Mistral ? Et il dit d'abord, ce n'est pas forcément à nous de mettre un gros ticket, on est là. Et moi, je trouve, c'est le raisonnement que je n'avais pas pensé, mais lorsque vous regardez qui a investi dans Mistral, c'est des grands fonds américains. Mais souvent, effectivement, ce sont des fonds de fortune qui ont fait fortune dans l'Internet, si vous voulez, dans la tech aux États-Unis. Et Dieu sait qu'il y en a énormément, quoi. On ne va pas tous les citer, parce que comme on les cite tout le temps, je pense qu'on les a bien en tête. Mais il dit en France, je suis désolée, même en Europe, ça n'existe pas. Donc, à part Xavier Niel, c'est un peu le seul qui investit. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient et on ancre. Oui. On ancre un peu dans l'écosystème français.
Sauf quand il dit, je salue Frédéric Simotel qui vient d'arriver. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Je ne sais pas si ce que je veux dire va vous faire hurler. On entendait Nicolas Dufour qui dit, on va investir 5 milliards d'euros dans l'IA sur les 4 prochaines années. Il disait, c'est beaucoup d'argent. Je me suis dit, Fred, je pensais que vous arriveriez un petit peu plus tard. S'il ne va pas entendre, et c'est peut-être tant mieux finalement qu'il n'entende pas ça. 5 milliards, est-ce que c'est beaucoup d'argent,
Frédéric? Pour BPI France, un lot de BPI France.
Pour BPI France, oui, mais c'est beaucoup d'argent.
Mais dans l'IA, c'est rien.
Oui.
Même les 10 milliards que le Qatar veut bien daigner nous laisser, quand on voit aux États-Unis, on parle en centaines de milliards, voire en milliers de milliards. Donc voilà, faut arrêter de faire croire qu'avec ces quelques milliards bien placés sur des trucs très pointus, on va s'en sortir.
Ils ont mis des débits dans Mistral.
Pardon ?
Ils ont mis des débits dans Mistral.
Oui, ils ont un peu moins de 5%. Mais du reste, ils disaient, c'est difficile pour nous, et vous voulez, de mettre 200 millions sur un ticket juste sur de la doc, si vous voulez, sur un petit dossier comme ça, on vous dit, vous mettez 200 millions ou rien. Les valorisations sont devenues tellement incroyables, tellement dingues, c'est des valorisations américaines, que c'est plus compliqué de suivre pour nous. Mais en tous les cas, visiblement, ils ont envie de mettre le paquet sur l'innovation. Il n'y a pas que Mistral. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est essentiel, mais ils investissent aussi dans beaucoup de boîtes de deep tech.
Il ne faut pas se planter à ce niveau-là, c'est sûr, Frédéric.
Il faut bien cibler là où on veut mettre de l'argent. Le problème aujourd'hui, et ce qu'on a dans l'IA, c'est qu'on saupoudre complètement. Alors très bien, on a 5, 6, 7, 8 champions. Très bien, des Photoroom, des Poolside, des Dust, des Lighton, des Hugging Face. Très bien. Et je ne sais pas s'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut en avoir 5, 6 très forts, miser à fond sur ces sociétés, comme ça a été fait aux États-Unis. Aux États-Unis, Microsoft a tué la concurrence, Oracle a tué la concurrence à son époque. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, on ne peut plus se permettre d'avoir plusieurs petites sociétés qui attaquent. Et on le voit, Mistral, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allient à Microsoft.
Emmanuel, on saupoudre. Ça peut porter ses fruits.
Oui, alors malheureusement, c'est une manie. C'est déjà une manie française et c'est encore plus une manie européenne. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Malheureusement, finalement.
Mais c'est au privé, en fait, d'investir lourdement.
C'est pour ça que si on fait un constat assez clinique, en fait, la seule chose qu'on est capable de produire, c'est des cerveaux. Et on voit bien qu'après, c'est là que tout part en sucette.
C'est pour l'exécution que ça.
Et malheureusement, ça fait 40 ans que ça dure. Donc, en fait, à chaque révolution technologique, chacune nécessitant toujours un peu plus d'argent, d'agilité, de rapidité que l'autre, on forme toujours les cerveaux qui vont être au cœur de ces révolutions.
Et qui vont partir.
Prenez la révolution Internet, prenez toutes les... La présence des Français, par exemple, elle est toujours à peu près la même que celle qu'elle est.
Et elle est hyper bien représentée.
Et le problème, c'est que après, c'est des infrastructures, des financements qui ne suivent pas. Et reprenez quand même toutes les grandes... Alors, depuis 50 ans, c'est simple. Soit on avait des ingénieurs qui avaient dans les cartons les grands projets du futur et on les a sabordés. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'internet sabordé par Ambroise Roux. Reprenez l'iPhone, c'est la même chose. Qui était dans les cartons de Thierry Breton, il aime bien raconter cette histoire quand il etc. Et les seuls trucs qu'on a réussi à développer, c'est des trucs qui existaient déjà, qu'on a perfectionnés et qu'on n'a jamais
fait. Mais là, c'est pas le cas. On a des start-upers qui...
Mais nos start-upers, ils vont chercher de l'argent ailleurs.
Le gros souci que l'on a, c'est une histoire de rapidité. Internet, ça a mis 20-30 ans à s'installer. Les e-commerce, là, on parle en mois. C'est-à-dire aujourd'hui, entre aujourd'hui et le mois de mai, il y a tellement de choses qui vont se passer, des investissements. Et là, la rapidité, on ne peut pas suivre avec quelques milliards d'investissements. Et aujourd'hui, c'est le gros souci.
Juste après la question de financement. Sur la question de financement, en tant qu'on n'a pas d'argent, de fonds de capitalisation, c'est sûr qu'on a un problème en France comme on a un problème en Europe. L'autre point intéressant, il disait les fortunes du tech devraient investir. Le problème, c'est qu'à part Xavier Niel, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais il disait, puisque nous, on a des grosses fortunes dans le luxe, et il y a LVMH, bien sûr, mais pas que, il faudrait qu'elles s'y mettent. Et ça commence, on voit, que ce soit la famille Decaux, que ce soit quand même les Bernard Arnault, mais aussi d'autres familles, elles commencent à s'investir dans la tech. Parce que c'est le secteur d'avenir.
Ça reste sans commune mesure avec ce qu'on voit en Asie, avec la fortune d'Eric Schmidt, on est bien d'accord, il n'y a pas que ça.
Un mot pour conclure là-dessus, Fred. Non. Il me dit que c'est pas grand chose. Bon, voilà. Persiste, Frédéric, là-dessus.
Il faut y aller à coup de centaines de milliards.
Après, il y a quand même cette idée.
Attendez,
juste un petit point qu'il a dit, c'est une petite info. BPI France sera prêt à investir, à accompagner,
oui.
Donc dans la cybersécurité,
oui.
d'Atos.
Oui.
Donc ça c'est un petit peu, ça c'est une information
si
importante.
Si Airbus y va, il est.
Si Airbus y va, on accompagne. On ne prendra jamais la majorité, oui. mais on va accompagner. Ça veut dire que c'est quand même intéressant.
Parce que c'est Mathieu Perchberdi qui nous disait, ça se trouve, Kretinsky va revenir avec une offre sur l'ensemble d'Atos. C'était les infos de Mathieu Perchberdi la semaine dernière. Donc il regarde, il peut pas être majoritaire, mais il regarde quand même, Frédéric.
Et là, il faudrait un peu plus d'audace. Alors, je sais que je ferai hurler un Jean-Marc Daniel, mais l'audace, ce serait de prendre toute la partie cyber et la partie cloud d'Atos, la nationaliser et faire une grande infrastructure numérique comme on l'a fait des infrastructures.
Alors, la réponse est non.
Oui. Voilà, non, mais la réponse est non. Mais aujourd'hui, la vitesse à laquelle il faut aller, c'est.
Mais
c'est ça
en faire. Revanche, je pense qu'ils ont les moyens d'activer un peu Airbus et d'activer repreneurs potentiels sur cette partie.
Après, il faut savoir qu'on dit toujours la pépite de Atos en cyber, c'est du service. Hein.
Oui.
C'est que du service. Donc, s'ils sont mal revendus, les gens vont partir et on n'aura plus rien. Hein. Ouais.
Non, et encore une
plutôt
fois,
que d'être à 7% de Stellantis, parce que c'est ce qu'il rappelait aussi.
Et encore une fois, l'écosystème, pas seulement financier, mais aussi politique et politico-industriel, ça compte. Quand vous avez quand même un ministre qui dit que Thomson, ça vaut 1 euro au moment où Thomson...
Voilà, mais là, vous refaites l'histoire.
Non, c'est pas tout jeune,
oui,
ça, quand même.
On ne refait pas l'histoire, on ne peut pas comprendre pourquoi on ne va pas y arriver. Voilà, alors après, on peut toujours croire qu'en mettant quelques milliards par-ci, quelques milliards par-là, ça va être différent cette fois-ci. La réalité, c'est que non.
Allez.
Et qu'on n'a toujours pas la sensibilité industrielle ni les capitaux qui nous permettent
quand même
d'y arriver.
Vous êtes un peu injuste, ça bouge, ça change.
Sujet plus apaisant, casino, avec un nouveau rebondissement.
Ça, c'est
tout à l'heure.
Vous qui
Et oui, la tuée est ainsi faite. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
Donc, on rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. Lundi dernier, le tribunal de commerce de Paris validait le plan de sauvegarde qui marquait donc la prise de contrôle de casino, entre autres par Daniel Kretinsky. Et donc, cet après-midi, on apprend que le comité social d'entreprise central du groupe a décidé de faire appel de ce jugement. Il veut faire appel pour quoi exactement ?
Le comité social et l'intersyndical aussi, qui étaient réunis pour nous dire ça. Ils interjettent appel du jugement du 26 février pour, disent-ils, rétablir la légalité de la situation. En fait, ils estiment que le plan de sauvegarde accéléré tel qu'il a été validé par le tribunal de commerce de Paris le 26 février dernier n'est pas légal, qu'il n'est pas conforme à la loi. Ils reprochent à la direction de Casino d'avoir caché la réalité économique et financière du groupe au moment où il a présenté ce plan de sauvegarde. Ils reprochent au plan de ne donner aucun indicateur sur le nombre de licenciements prévus. Ils portent des accusations de délit d'entrave. Ils passent la seconde, si je puis dire, l'intersyndical et le comité, le CSE, tout à l'heure. Ils disent jusqu'ici, on a été... ils disent pas ce mot-là, mais en gros, ils ont été assez cool. Là, ils décident de taper du poing sur la table aujourd'hui pour que soit prise en compte l'aspect social du dossier dans ce plan de sauvegarde accéléré. Et ils avaient 10 jours pour interjeter appel. C'est jeudi, la fin de la date butoir. Ils espèrent aussi que le parquet, qui a émis lui aussi un avis défavorable sur ce plan de sauvegarde accéléré avant sa validation, ils espèrent que le parquet va interjeter appel aussi de la décision du tribunal d'ici jeudi.
Oui.
L'appel de l'intersyndical n'est pas suspensif.
Celui d'aujourd'hui n'est pas suspensif.
En revanche, si le parquet fait appel, là, ça suspendra le plan de sauvegarde accéléré, la restructuration du groupe telle qu'elle est pensée par les futurs repreneurs, par les repreneurs qui doivent prendre les rênes officiellement le 27 mars prochain.
C'est dans 3 semaines, ça arrive très vite. On est en ligne avec Maître Françoise Maréchal-Thiolan, qui est avocate au barreau de Paris, présidente de Technologia Juris, avocate des syndicats de l'intersyndical. Bonsoir Maître, merci beaucoup d'être avec nous quelques instants sur BFM Business. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je pense.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous entend. Je cite le comité central d'entreprise centrale. Le plan ne respecte pas la loi, plan de sauvegarde. Il ne sauvegarde ni l'activité ni l'emploi. En une petite minute, de manière très concise, Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous entendez démontrer ça dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
Oui, mais écoutez, c'est une très bonne question. Comme vous le savez, donc après mieux réflexion, les élus du comité social économique central de distribution Casino France, en accord avec l'intersyndicale du groupe Casino, ont décidé de faire appel. Ils ont décidé de faire appel pourquoi ? Parce que ce plan de sauvegarde accéléré tel qu'il a été adopté n'est pas valable. Et qui plus est, vous venez de le rappeler, comme vous le savez, le procureur de la République à l'audience du tribunal de commerce a aussi donné un avis défavorable pour les mêmes raisons, à savoir que ce plan n'est pas valable parce qu'il ne comporte pas de volet social. Mmh. Voilà, alors ça signifie quoi qu'il n'est pas valable sur le plan de la loi ? Ça signifie que finalement, en l'absence de volet social, alors concrètement, ça signifie quoi, vous me direz, un volet social ? Eh bien, ça signifierait, comme vous le savez, qu'il y a des cessions qui sont annoncées des hyper et supermarchés.
Oui.
Et en réalité, le plan de sauvegarde tel qu'il a été présenté ne repose que sur ces cessions. Il n'y a pas eu d'autre alternative proposée. Donc, la démonstration est faite, c'est qu'en réalité, le volet social qui n'existe pas aurait dû donner des indications, par exemple, sur le nombre de licenciements qui vont être effectués au sein de l'activité qui va rester, le casino, puisque vous cédez quand même une activité qui représente, comme vous le savez, ou pas en tout cas, le périmètre représente 3,6 milliards de chiffres d'affaires hors taxes et hors essence, sur un chiffre d'affaires à l'origine qui était de 7 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de l'activité qui s'en va. Or, le plan de sauvegarde financière accélérée doit garantir le maintien de l'activité.
Ce là, qui il n'est y a pas quand le cas. Même
D'accord. beaucoup qui s'en vont. Voilà. Et puis aussi le maintien de l'emploi.
En quelques
Et
secondes,
là aussi, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, en fait, il aurait fallu, si vous voulez, dans ce plan, que soit précisé le nombre de licenciements. Là, jusqu'à aujourd'hui, ils n'en savent rien. L'intersyndicale l'évalue à peu près à 6 000 salariés concernés. Du fait, en fait, de ces cessions, si vous voulez, les fonctions support, les personnes qui travaillent dans les entrepôts, la logistique et le siège vont être concernées, seront inutiles. Donc, il y a évidemment un plan de sauvegarde de l'emploi qui est en train d'émerger. Or là, ce plan-là aurait dû être présenté au tribunal dans le cadre du volet social, et ça n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas.
D'autre part...
Merci. Pardon, maître, je vais te s'interrompre. Oui, je vous laisse conclure en quelques secondes, vraiment, parce qu'on est au bout. Pardon, allez-y.
Oui. Ben voilà, en fait, nous considérons que le CSEC aurait dû être informé et consulté sur ces mesures.
Merci
et
beaucoup.
Et dans le respect de la règle et en confiance, en fait, puisque encore une fois, il ne s'agissait que d'une sauvegarde financière accélérée. Donc, il y a un véritable, si vous voulez, mensonge dans la présentation de cette sauvegarde.
Merci beaucoup, maître. Merci pour cette explication, maître Françoise Maréchal-Thiolan, avocat au barreau de Paris, présidente de Technologia Juris. Donc, si on comprend, il y a un petit coup de pression, Pauline, là, sur le parquet, qui a jusqu'à jeudi pour faire appel. Si le parquet fait appel jeudi, là, c'est suspensif, mais qu'est-ce qui se passe dans la foulée, alors?
Alors, il y a surtout, il faut le voir d'abord comme un coup de pression, je pense, du CSE et de l'intersyndicale sur la direction de Casino, qui va prendre les choses en main, pour leur dire, il faut vraiment que dans les semaines, dans les mois qui viennent, vous preniez en compte, vous nous donniez des réponses aux questions qu'on se pose depuis des mois et auxquelles on n'a pas eu de réponse sur effectivement le nombre de licenciements, que ce soit au siège, il y a 1800 personnes, 1800 personnes au siège de Saint-Étienne. Les chiffres qui circulent, qui n'ont pas été confirmés donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il resterait 200-250 personnes au siège de Saint-Étienne, par exemple. Il y a les entrepôts, etc. Donc il y a ce point-là, les 26 magasins qui n'ont pas encore été revendus hyper et super, qui n'ont pas été redistribués, donc là aussi il y a des emplois dans ces magasins-là. Voilà, les syndicats veulent des réponses là-dessus. Il y a aussi cet appel au parquet d'interjeter appel de la décision du tribunal de commerce d'ici jeudi. Cet appel-là, nous dit-on, et c'est ce que dit l'avocate de l'intersyndicale et du CSE serait suspensif. Ça veut dire que ça suspendrait le plan de sauvegarde, la mise en œuvre du plan de sauvegarde par la direction de Casino. Ça suspendrait la restructuration. De fait, ce que disait la direction de Casino fin février, il le disait comme ça, et voilà, ça veut bien dire ce que ça dit. En l'absence de recours suspensif, il est envisagé que l'ensemble des opérations prévues par la restructuration financière soient réalisées le 27 mars.
C'est dans 3 semaines.
Sous-entendu, s'il y a un recours suspensif, eh ben, il n'y aura pas cette restructuration.
Donc, juste un point, ça ne remet pas en cause la vente, les quelques 200 ou 300 hyper qui ont été déjà cédés, enfin qui sont en cours de cession.
Ça, je n'ai pas la réponse à cette question-là.
Est-ce que c'est ça qu'il faut savoir ?
D'après moi, ça met en cause la restructuration financière du groupe. C'est en tout cas ce que
je disais. De l'ensemble du groupe ou alors du groupe qu'a acheté Daniel Kretinsky et Marc Ladré-Lacharrière ?
J'aurais aimé que l'avocate réponde à notre place, mais en tout cas... je vais retrouver mes mots. La question, elle est bien là. Les syndicats, je le précise, disent eux que s'il y a appel aussi du parquet, pour autant, ça ne mettra pas par terre le plan, et que s'il faut aller en redressement judiciaire ou en liquidation, eh bien, ce sera la responsabilité et seulement la responsabilité de Casino et du consortium.
Bon, on va donc suivre ce que nous dira le parquet éventuellement d'ici jeudi prochain. Ça va se jouer dans les prochaines heures. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez me dire un mot de ce qui se passe en Allemagne, la semaine de grève?
Non, sur les riches. Les riches.
Ah, vous voulez dire un mot des riches?
Bah oui.
L'étude de l'Observatoire des inégalités qui nous dit quoi? Alors, 3860 euros bruts, nets pour une personne seule,
on est riche. Je sens que c'est un sujet qui plaît.
Oui, on n'est pas prévu.
Qui plaît beaucoup à Emmanuel.
Donc, à partir de 3860 euros nets par mois, une personne seule est riche et considérée comme riche par l'Observatoire des inégalités. Et ça, c'est vrai que ça l'a fait hurler aujourd'hui, Emmanuel de Chypre.
Non, ça fait hurler parce que c'est une faute. D'abord, c'est une faute sémantique. Ensuite, c'est une faute économique et c'est une nuisance sociale. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez la définition du dictionnaire, est riche celui qui possède une fortune.
Qui possède des richesses.
Bon voilà, qui possède 3850 euros par mois a la possibilité d'accumuler un patrimoine. Donc vous avez peut-être un livret A, si vous avez de la chance d'être propriétaire de votre logement. Donc voilà, donc c'est pas vrai. Pourquoi c'est embêtant sur le plan économique? C'est parce que fondamentalement, vous ne donnez pas une véritable idée de ce que sont les riches et leurs contributions. Et vous en arrivez à cette idée qui est terrible. Et c'est pour ça que sur le plan social, c'est pernicieux. C'est qu'en fait, si vous considérez que les riches, ce sont ces catégories au-dessus de 3850 euros, ça veut dire que dans les politiques économiques, quand on va vous dire « Ah bah, il faut faire payer les riches », en gros, on va faire payer ces gens-là. Et en gros, ça revient à faire payer les classes moyennes pour les pauvres et pas du tout les riches. Et donc, ça, en plus, ça donne une idée qui est totalement fausse.
Parce qu'on va arrêter un jour de vouloir quantifier donc, la riche. Je vous rappelle le François Hollande
Est-ce qu'on va arrêter de vouloir quantifier
la,
ça n'a pas de sens.
La richesse dans ce pays, Edwige?
Non, mais surtout, c'est que, comme dit Emmanuel, ça n'a pas de sens. 3800 euros, puis ça dépend où vous habitez. C'est pas du tout la même chose si vous êtes en Ile-de-France, à Paris, vous êtes dans une ville, je sais pas, de province. C'est pas du tout. Le coût du logement est très différent, le coût des études, tout est différent. Donc c'est un peu absurde. Puis surtout la vraie richesse, la richesse qu'il faut peut-être taxer. En tous les cas, il y a une réflexion là-dessus. C'est on veut dire, c'est les vrais riches, c'est ceux qui ont un patrimoine financier, patrimoine immobilier. Alors, il y a déjà les LFI, bien sûr. Mais taxer plus des gens qui ont 3800 euros, ça me paraît un peu superfétatoire dans le sens où ils sont déjà largement taxés lorsqu'on voit le taux de prélèvement obligatoire de la France.
Étude qui est sortie en fin de semaine dernière, qui a fait beaucoup jaser, étude de l'Observatoire des inégalités. Ça fait environ 10 ans qu'ils publient ce baromètre.
Qui divise beaucoup la société française.
Oui. On va revenir sur l'intelligence artificielle. Frédéric Simotel donc est avec nous parce qu'on commentait déjà vendredi soir ici même la plainte déposée par Elon Musk contre les fondateurs d'OpenAI. Voilà, ils ont trahi ce qu'était l'esprit originel de la société OpenAI qui devait rester une organisation à but non lucratif. Non, on devait parler de ça parce qu'il y a un débat qui recommence à émerger. C'est sur les dégâts que provoque l'intelligence artificielle sur l'emploi. Pas seulement sur la tech, mais aussi sur la tech. Est-ce que c'est pas en train d'aller un petit peu trop vite tout ça quand même, Frédéric?
Ça va, je reviens sur ces éléments de rapidité dont je parlais tout à l'heure. On est en plein dedans aujourd'hui, c'est-à-dire au début on a vu fin 2022, on a vu toutes ces grandes, même les GAFAM, les plus puissantes avec des résultats colossaux, qui commençaient à licencier parce que voilà, ils avaient beaucoup recruté en post-Covid et ils avaient entre guillemets un peu de gras, je peux m'exprimer comme ça, dont il fallait se séparer. Mais aujourd'hui on se rend compte que là ils ont retrouvé un niveau normal d'emploi et pourtant ils continuent à licencier et pourtant ils continuent à avoir des chiffres incroyables. Je regardais Meta, les profits en hausse de 72%, une croissance sur le chiffre d'affaires de 9%, et pourtant ça continue à licencier et pourtant ça continue à marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle est peu à peu en train de remplacer les métiers, et que là où auparavant, lorsqu'on faisait de la croissance et qu'il fallait investir pour aller vers de nouveaux secteurs, eh bien on devait recruter voilà, pour aller vers des nouveaux marchés. Aujourd'hui l'IA s'en occupe et on le voit dans tous les domaines. Sony, la semaine dernière, a annoncé des centaines de licenciements. C'est pas seulement des vendeurs ou des fonctions support, ce sont des développeurs. Pourquoi? Parce que dans les jeux vidéo...
Mais ils recrutent des développeurs.
Ils virent des parce qu'ils n'ont plus besoin de développeurs pour faire des décors, pour faire des personnages.
Qui disait ce week-end, il n'y a plus besoin d'apprendre à coder, c'est un grand patron qui disait...
C'était le patron d'NVIDIA. Aujourd'hui, on a...
Ok, une phrase géniale pour lui.
Et aujourd'hui, on est en train de voir cette vague qui est sous les radars, qui sont des développeurs qu'on ne recrute plus. Aujourd'hui, il y a des entreprises, on parlait d'une entreprise Expedia la semaine dernière qui licencie 1500 personnes, alors le secteur du voyage, etc. Mais il y a aussi que des projets se font beaucoup plus vite aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, des projets de migration. Et le problème, c'est qu'on est très, on y va de façon très très rapide. Et si vous regardez bien en détail les licenciements, même chez les GAFA, vous vous rendez compte que ils licencient plus le gras qu'ils pouvaient avoir avant. Ils sont en train de licencier.
Alors qu'on expliquait aux gamins qu'il fallait apprendre à coder absolument pendant des mois et des mois. Oui, Manuel, pardon.
Non, mais c'est... Parce qu'en fait, il y a toujours cette idée qu'à chaque révolution technologique, vous avez toujours ceux qui vous disent « mais non, comme d'habitude, oui, ça va détruire des emplois, mais ça en créera beaucoup d'autres en plus ». Et puis, il y a toujours ceux qui, à chaque fois, disent « c'est différent ». Mais là, quand même, il y a beaucoup d'arguments en faveur du « cette fois-ci, c'est différent ». Le premier, c'est la rapidité, il faut le rappeler. C'est quand même stupéfiant. Maintenant, c'est même des questions de jours. Regardez Téléperformance la semaine dernière, oui. On découvre une IA qui peut faire le boulot à la place, hop, la moitié de la boîte ne vaut plus rien. Et puis, surtout, à chaque fois que ça a créé des emplois, c'est parce que vous étiez dans une logique où on remplaçait des métiers un peu répétitifs par finalement d'autres métiers répétitifs. Les gens qui ont quitté les campagnes où ils faisaient des métiers répétitifs, ils sont allés à l'usine faire des métiers répétitifs, puis dans des bureaux faire des métiers répétitifs. Là, on remplace l'homme. Et finalement, on se dit que à l'inverse, on va avoir, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de suppressions d'emplois, des gains de productivité considérables,
oui.
Et que la vraie question qui va se poser, c'est finalement comment on répartit la richesse créée par ces intelligences artificielles pour rémunérer des gens qui ne vont peut-être plus travailler que 25 heures par semaine en moyenne.
Edwige,
je citais tout à l'heure cette phrase toujours du patron d'NVIDIA qui a dit dans le futur, tout ce qui bouge sera autonome. Donc ça veut dire qu'il y a des robots partout.
Et dit que d'ici 5 ans, les machines seront meilleures que les tests humains. Donc tous les examens
dans la santé, ça va. Mmh.
Et même dans la santé.
Ça va très très vite dans la santé.
Même dans la santé, regardez ce qu'on disait il y a encore peu de temps.
L'histoire des diagnostics,
on disait, c'est super, la machine, l'intelligence artificielle va faire tous les diagnostics et le médecin pourra avoir plus de temps humain à consacrer à son patient. La réalité, c'est que les travaux qui sont faits aujourd'hui vous montrent que l'intelligence artificielle, elle a plus d'empathie envers le patient.
Et en plus, elle vous répond le samedi, elle vous répond le dimanche, elle vous répond l'instant, quelle heure du jour et de la nuit.
Et surtout, elle répond.
Et surtout,
voilà.
C'est notre débat, mais non, c'est pas notre débat, ça fait partie de l'équation, évidemment. Bon. Enfin, nous sommes là, nous en tout cas, en ce qui nous concerne encore. Voilà. Début mars 2024, nous sommes encore là. Je touche du bois pourvu que ça dure. Merci à tous les trois, à tous les quatre. Merci à Pauline Tadevin qui nous a accompagnés. Emmanuel Le Chypre, merci. Frédéric Simotel, on se retrouve. On se retrouve à 20h avec.
Tech & Co, 20h, 21h30.
Edwige, demain, 18h10.
Demain, Super Tuesday.
Ah oui.
La peur de l'arrivée de Trump.
Ah, oui.
La peur, faut-il avoir peur? On en parlera avec l'économiste Nicolas Bouzou, qu'on connaît bien. Ouais. Et pour cause, on parlera quand même un peu aussi des Jeux Olympiques 2024. Qu'est-ce que ça va apporter à la croissance française? Parce que la CRS, son cabinet, a fait toute une étude là-dessus.
Ils disent que oui, ça va coûter plus qu'on ne le pense déjà, notamment. Ça fait partie de l'équation, ça aussi. Nicolas Bouzou, donc demain, 18h10. Merci beaucoup, 18h58. Nous, on revient dans un instant. On va reparler de cette grosse amende que Bruxelles a infligée à Apple. 1,8 milliard d'euros, ça tape très très fort. Et puis dans le reste de l'actualité, beaucoup de choses. Nouveau rebondissement chez Casino. Et l'Allemagne, ça aussi, on en parlera. Alors pour le coup, tout à l'heure, l'Allemagne qui s'offre une belle semaine de grève dans les transports. Est-ce que le modèle social français est en train de déteindre sur l'Allemagne? Ça fait partie des questions qu'on pose, entre autres, jusqu'à 20h. A tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.